histoire d'en dire plus.
Moins 40.
C'est le nord. Tu m'as demandé, mon petit.
Monte, on m'appelle Mamie et...
Et Mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, Mamie Tromblon.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec.
Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure.
Tu m'aides pas, là?
Non, pas là, non.
Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, on parle d'un gros succès commercial des années 2000, réalisé par Ridley Scott, avec Russell Crowe, entre autres, et Joaquin Phoenix. Je veux bien sûr parler de Gladiator. Allez, c'est parti, mon kiki, on y va. Alors, Gladiator, ou Gladiateur au Québec, ça ne peut plus s'empêcher de traduire. Pourtant, ils prononcent très bien l'anglais, les Québécois. Quand ils parlent anglais, ils parlent très bien. Est un film américano-britannique réalisé par Ridley Scott et sorti en 2000. Gladiator revisite le genre du péplum, dont les derniers films majeurs dataient des années 60. Le film ne se fonde pas sur des événements réels, mais reprend le nom et certains traits de personnalité de l'empereur Marc Aurèle et de ses enfants Commode et Lucilla. L'intrigue raconte ainsi la chute du général romain Maximus Decimus, interprété par Russell Crowe, destiné à devenir le successeur de Marc Aurèle, joué par Richard Harris, avant que l'empereur ne soit assassiné et le général brutalement trahi et laissé pour mort par l'ambitieux et maléfique Commode, qui est joué par Joaquin Phoenix, qui en profite pour revêtir la pourpre impériale. Maximus, dont la famille a été massacrée, va devenir un esclave gladiateur, conquérir le cœur du peuple romain par ses talents de combattant dans l'arène du Colisée et finalement affronter Commode dans un ultime combat. Connie Nielsen, Ralph Moyer, Jim Onunsu et Derek Jacobi font également partie de la distribution. Outre le fait qu'il fut un succès commercial, avec des recettes dépassant les 450 millions de dollars américains pour un budget de 103, le film a remporté de nombreux prix, en particulier 5 Oscars, récoltés lors de la cérémonie de 2001, meilleur film, meilleur acteur pour Russell Crowe, entre autres, et d'autres que je vous dirai par la suite. Plus de 2 décennies après, la sortie d'une suite est prévue pour l'année 2024. Mais on n'en entend plus parler. J'ai lu un article comme quoi ils avaient annoncé un 2. Et puis, pour l'instant, rien. Donc, c'est un film qui dure 155 minutes et 171 pour la version longue. C'est dense, il y a beaucoup à raconter. On va raconter le synopsis. Donc, sur le front du Limes, du Danube, en 180, Maximus Decimus Meridius, général romain ibérique renommé, mène une nouvelle fois les légions de l'empereur Marc Aurèle à la victoire en ce jour de bataille en Germanie contre les Marcomans. L'empereur, sentant sa fin proche, annonce le soir même en privé à Maximus qu'il souhaite lui laisser le pouvoir à sa mort, pour qu'il puisse le transmettre au Sénat et que Rome devienne à nouveau une république. Marc Aurèle préfère le général à son propre fils, Commode, qui est joué par Joaquin Phoenix, qu'il sait ambitieux et immoral, et sans réelle compassion pour la plèbe. Lorsque le vieil empereur annonce la nouvelle à son fils, Commode, jaloux de l'amour que son père porte à Maximus, l'étouffe, devenant ainsi le nouvel empereur. Lorsque Commode demande à Maximus de s'engager à le servir, on dit Maximus, normalement, pas Mus. C'est pour ça que j'essaie de le dire bien. S'engage à le servir, ce dernier, se doutant du meurtre, lui oppose un refus. L'empereur ordonne alors à Quintus, compagnon d'armes de Maximus, son exécution, ainsi que celle de sa famille résidant en Hispanie romaine. Maximus réussit à désarmer ses gardiens et à fuir, blessé. Parvenu sur ses terres après plusieurs jours affaibli, il découvre le corps de sa femme et de son fils de 8 ans, calciné et crucifié devant la maison familiale. S'étant évanoui après avoir enterré sa famille, Maximus est emmené par des marchands d'esclaves et il est soigné et conduit à Zoukabar, en Maurétanie césarienne, où il est vendu à un riche propriétaire et négociant local, un yaniste nommé Proximo. La nouvelle vie de Maximus consiste à combattre dans l'arène en tant que gladiateur, aux côtés de Juba, qui devient son ami, et d'autres gladiateurs, comme l'entraîneur Hagen. Il trouve un début d'exutoire à sa brutale destitution et à la perte de tout ce qu'il comptait pour lui. Maximus est bientôt surnommé l'Espagnol par la foule assistant au combat. Cherchant l'opportunité de se trouver en présence du nouvel empereur, l'Espagnol obtient de Proximo de combattre dans le Colisée à Rome. Bientôt, les premiers jeux débutent et les gladiateurs de Proximo entrent en scène dans une reconstitution de bataille. Ils sont confrontés à des chars et des censés, d'après le scénario, mourir dans l'arène. Mais grâce à son talent militaire, Maximus, aidé de Juba et Hagen et des autres, prend le dessus et gagne la bataille sous les acclamations de la foule en délire. Après ce combat épique, et souhaitant féliciter personnellement la troupe de gladiateurs, Commode demande alors à l'Espagnol quel est son nom. Celui-ci, répond, s'appelait Gladiateur et lui tourne le dos. Devant cet affront, l'empereur lui ordonne d'ôter le masque de son visage et de se présenter. À contre-cœur, Maximus révèle son identité en promettant une vengeance certaine. Il dira « Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée, et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. » C'est alors que Commode demande à Quintus, devenu chef de la garde prétorienne, l'exécution des gladiateurs, mais la foule s'offusque et lève le pouce pour demander leur grâce. L'empereur Commode doit se résigner et les combattants sont épargnés sous les acclamations du peuple. Lucilla, sœur de Commode, secrètement amoureuse de Maximus et sachant la vie de ce dernier en danger, le rejoint dans sa cellule. Elle veut la chute par le meurtre de son frère et une rencontre entre Maximus et le sénateur Gracchus, fervent défenseur de la République. Mais Maximus la rejette, toujours traumatisé par le meurtre de sa famille. Commode organise un duel où Maximus doit se battre contre le champion invaincu de Rome, Tigrix de Gaulle. Bien que tout soit organisé afin de favoriser la victoire de ce dernier, Maximus sort une nouvelle fois victorieux du combat, tout en défiant l'empereur, en épargnant son adversaire, malgré la décision de Commode. L'empereur descend dans l'arène sous les huées et provoque Maximus, qui reste stoïque, et repart sous les clameurs de la foule. Parmi elles se trouve Cicéron, son ancien fidèle serviteur et ami, qui lui redonne espoir en lui apprenant que ses hommes sont devenus clampés proches de Rome, prêts à suivre leur ancien général pour renverser l'empereur. Avec l'aide de Lucia, Maximus accepte finalement de rencontrer le sénateur Gracchus. L'ancien soldat renversera l'empereur et laissera ensuite place au sénateur pour faire renaître la République. Mais Lucius, le jeune fils de Lucia, témoin d'une conversation entre sa mère et Gracchus, y fait involontairement allusion devant son oncle, qui décide alors de contrecarrer le projet de révolte. Avec l'aide de Falco, sénateur corrompu, l'empereur fait donner à la garde prétorienne qui emprisonne Gracchus, puis attaque le camp des gladiateurs. Plusieurs hommes sont tués, et même dont Hagen et Proximo, pour permettre à Maximus de s'évader. Excusez-moi. Le général retrouve Cicéron, mais ce dernier est à son tour tué et lui-même est capturé, ainsi que Juba et quelques autres gladiateurs survivants. Commode a gagné cette manche. Amoureux de sa sœur depuis longtemps, ils veulent lui faire un héritier, mais lui promet aussi la mort de son fils Lucius si elle s'enfuit ou met fin à ses jours. Reste que le cas de Maximus, que Commode ne peut faire assassiner sous risque d'en faire un martyr qui fragiliserait sa légitimité déjà contestée. Il opte pour un combat singulier entre eux dans l'arène, mais blesse lâchement de sa dague l'ex-général alors enchaîné dans les souterrains du Colisée. Le combat débute dans un amphithéâtre bondé. Maximus, blessé, chancelle, mais résiste face à Commode qui finit désarmé. Ce dernier réclame une arme, mais Quintus empêche ses hommes d'intervenir. L'empereur saisit alors sa dague, mais Maximus retourne l'arme contre lui et le tue. À bout de force, il demande la liberté des derniers gladiateurs et du sénateur Gracchus, puis s'écroule avant de mourir dans les bras de Lucia. Le retour de la République à Rome, comme le souhaitait Marc Aurèle le Juste, est désormais possible. La nuit venue, Juba enterre les statuettes du fils et de la femme de Maximus dans le sable du Colisée. Il promet alors à ce dernier qu'ils se reverront, mais pas encore. Voilà pour l'histoire poignante de ce film, et forte. Au scénario, c'est David Franzoni, John Logan et William Nicholson, d'après une histoire de David Franzoni. Donc le script original, c'est David Franzoni. On l'a dit, à la réalisation, c'est le grand Ridley Scott. Au costume, on peut citer John Tietz, qui a fait un travail remarquable, tout comme John Evans et John Nelson pour les effets spéciaux. Ça sera la société The Mill qui s'en occupera, société dont on n'entend plus beaucoup parler maintenant, mais qui a fait un gros travail sur ce film, notamment les scènes de foule du Colisée, où ils ont rempli le Colisée numériquement. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous savez que je fais des épisodes spéciaux sur les effets spéciaux, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à les écouter. Voilà, le budget, il est de 103 millions de dollars, donc c'est assez confortable, hein. La production, c'est la Universal Pictures, DreamWorks Pictures et Scott Free Productions. Les langues parlées dans le film sont l'anglais, le latin, le germain, l'arabe et le français. C'est tourné en Technicolor, 35 mm avec du matériel Panavision, en 2/39e, son Dolby Digital DTS SDDS. La version longue de 171 minutes est de 2005. Et le film original, on l'a dit tout à l'heure, est de 155 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 1er mai 2000 en avant-première à Los Angeles et en sortie nationale le jour d'anniversaire de votre serviteur, le 5 mai 2000, et ressorti en IMAX le 22 novembre 2000, puisqu'il a été aussi tourné en IMAX, en tout cas elle a été convertie en IMAX, c'est-à-dire une pellicule de 70 mm et non plus 35. Voilà, la France, on y a eu droit le 20 juin 2000. C'est classé tout public mais interdit au moins de 12 ans lors de la diffusion à la télévision. Et pour les États-Unis, les enfants de moins de 17 ans devaient être accompagnés d'un adulte. Donc Russell Crowe, il joue Maximus Decimus Meridius. Joaquin Phoenix, il joue Commode. Connie Nielsen, il joue Lucilia. Oliver Reed, il joue Proximo. Jimon Unsu, Juba. Richard Harris, Mark Aurel. Derek Jacobi, le sénateur Gracchus. Voilà, je ne vais pas tous les faire, mais... On a quand même des têtes connues, Oliver Reed, des gens assez connus dans le milieu. Gladiateur est tiré d'une histoire écrite par David Franzoni, qui en a écrit les tout premières ébauches. Celui-ci a reçu une offre de la part de DreamWorks SKG en raison de la qualité de ses travaux en tant que scénariste et coproducteur du film Amistad, de 1997, réalisé par Steven Spielberg, qui avait contribué à la réputation de DreamWorks SKG. Franzoni s'est inspiré de la nouvelle de Daniel P. Mannix, Ceux qui vont mourir, Those who are about to die, écrite en 1958, et a décidé de choisir Commode comme personnage historique central après avoir lu l'histoire Auguste, Historia Augusta, un recueil de biographies d'empereurs romains écrit en latin à la fin de l'Antiquité. Dans sa première ébauche, datée du 4 avril 1998, il nomme son personnage principal Narcissus, d'après le prénom du lutteur, ayant étouffé l'empereur Commode selon l'histoire Auguste, ainsi que d'après l'Héroïdien et Dion Cassius, des livres. Hein. Ridley Scott est alors approché par les producteurs Walter F. Parks et Douglas Wick. Il lui montre une copie du tableau de Jean-Léon Jérôme, intitulé « Pollice Verso » en 1872, littéralement « pouce baissé » en latin. Scott est attiré par l'idée d'un film qui se déroulerait dans la Rome antique. Hein, le tableau décrit un gladiateur à terre avec un gladiateur regardant la foule du Colisée remplie. Toutefois, il estime que l'écriture de Franzoni manque de substance et engage John Logan pour réécrire le script à son goût. Logan revoit une bonne moitié de la première partie et prend la décision de faire mourir la famille de Maximus dans le scénario afin de fournir des motivations plus importantes aux personnages. Cependant, deux semaines avant le tournage, les interprètes se plaignent de problèmes avec le scénario. William Nicholson est alors dépêché au studio de Shepperton pour faire de Maximus un personnage plus sensible en réaménageant son amitié avec Juba et en développant le fil rouge de l'au-delà. Il explique dans une interview qu'il ne voulait pas voir un film sur un homme qui voulait simplement tuer quelqu'un. Franz Zeni participe par la suite à la relecture des réécritures de Logan et Nicholson et négocie un titre de producteur sur le film. Nicholson décide de revenir au script initial de Franz Zeni et de réintégrer certaines scènes supprimées. Franz Zeni participe alors à la réécriture du scénario et, jouant son rôle de producteur, défend son point de vue afin de rester fidèle à sa vision originale. Franz Zeni partagera plus tard l'Oscar du meilleur film avec les producteurs Douglas Wick et Banco Lustig. Le scénario a également subi de nombreuses réécritures et révisions en raison des suggestions de Russell Crowe, l'interprète principal. Celui-ci a en effet émis des réserves au cours des différentes évolutions du script. Il n'a pas hésité à quitter le plateau lorsqu'il n'obtenait pas des réponses à ses remarques. Selon un porte-parole de DreamWorks, Crowe a tenté de réécrire l'ensemble du script sur place. Vous pouvez appeler l'accroche de la bonne annonce « J'aurai ma vengeance dans cette vue ou dans l'autre ». Au début, il a catégoriquement refusé de la prononcer. Nicholson, le troisième et dernier scénariste, ajoute que l'acteur lui a dit « Les dialogues sont nuls, mais étant donné que je suis le meilleur acteur du monde, je peux les rendre bons. » Petite cheville, monsieur Russell Crowe. Pour la préparation du tournage, Scott a passé plusieurs mois à développer des storyboards pour créer la structure de l'intrigue. Après 6 semaines de recherche, la production a choisi plusieurs sites appartenant à l'Empire romain avant son effondrement, dont l'Italie, la France, l'Afrique du Nord et le Royaume-Uni. Les objets, accessoires, décors, costumes ont entièrement été créés par l'équipe technique en raison de leur coût et de leur indisponibilité dans le commerce. 100 armures en métal et 550 autres en polyuréthane ont été dessinées par Rod Vass et son entreprise Armordio Limited. Également, 27 500 pièces d'armure ont été fabriquées en 3 mois avant le début du tournage. D'abord pressenti pour tenir le rôle de Maximus, Mel Gibson doit y renoncer car il a déjà signé pour le tournage de The Patriot. Et c'est Russell Crowe qui le remplace au pied levé. Antonio Banderas et Hugh Jackman et Tom Sizemore furent aussi suggérés pour le même rôle. Concernant les rôles de Commode et Lucilla, le premier choix s'était porté respectivement sur Jude Law et Jennifer Lopez. La société The Mill crée une doublure numérique de l'acteur pour les autres scènes de son personnage, Proximo. Il cartographie un masque 3D en image de synthèse de son visage en l'intégrant aux scènes restantes pour un coût de 3,2 millions de dollars et 2 minutes de séquences supplémentaires. Le superviseur des effets visuels, John Nelson, explique la décision d'inclure des images retouchées. « Ce que nous avons ajouté ne représente qu'une petite partie de notre travail sur ce film. Ce que Oliver a fait était bien plus important. Il nous a offert une prestation enthousiaste et émouvante. Nous nous sommes bornés à l'achever. Le film est d'ailleurs dédié à la mémoire de Reed. » Car je reviens en arrière. Oliver Reed, interprétant le rôle de Proximo, le maître des gladiateurs, meurt d'une crise cardiaque pendant le tournage à Malte le 2 mai 1999, à 61 ans, avant d'avoir achevé toutes ses scènes. Par respect vers l'acteur, les producteurs décident de garder ses scènes et de modifier le scénario en conséquence. En effet, il était prévu que Proximo aille enterrer son épée en bois dans le Colisée, affranchissant ainsi symboliquement Maximus de sa condition de gladiateur à la fin du film, tandis que Juba, interprété par Dimon Hounsou, devait initialement mourir à la suite d'un combat contre un rhinocéros. Voilà pourquoi The Mill a créé un double numérique de l'acteur. Donc cette société, The Mill de post-production, et son directeur des effets spéciaux, Tim Burke, ont été en grande partie responsables des effets visuels, à ne pas confondre. Je dis effets spéciaux, mais en réalité, c'est effets visuels. Effets spéciaux, c'est tout ce qui se passe sur un plateau, en réel. Les effets visuels, c'est tout ce qui est rajouté en numérique derrière. Donc là, on parle d'effets visuels. Après le tournage, l'entreprise a notamment chargé la réalisation des plans avec les tigres, tournés sur écran bleu, et celui de la trajectoire des salves de flèches enflammées lors de la scène d'ouverture pour contourner la réglementation de sécurité en vigueur sur le tournage. Ils ont également utilisé 2000 figurants pour créer par ordinateur une foule de 35 000 spectateurs virtuels qui réagissent de façon crédible aux scènes de combat dans l'arène. The Mill a pour cela filmé les interprètes sous des angles différents en fonction des diverses situations grâce aux techniques de capture de mouvement, puis les a assemblés pour composer leurs mouvements en 3D. L'ensemble des effets visuels, plus de 90, représente approximativement 9 minutes du temps total du film de 155 minutes, on l'a dit, pour la version originale. La musique, on ne l'a pas dit au début, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est ni plus ni moins que le grand Hans Zimmer qui l'a composé avec Lisa Gerrard. L'album est sorti en 2000. Une bande originale complètement inoubliable. Un thème gladiateur qui a été repris dans de nombreuses bandes annonces par la suite. Cette musique est devenue très célèbre. La musique de Gladiator, un peu comme celle de Jurassic Park. Il y a eu des ressorties une fois en 2001, en 2003, en 2005. Bref, Gladiator reçoit un accueil plutôt positif, avec un score de 77% sur Rotten Tomatoes, et Metacritic lui donne 64% pour 37 avis. La bataille de Germanie en scène d'ouverture est citée par CNN comme étant l'une des scènes de bataille favorites, alors que le magazine Entertainment Weekly a nommé Maximus sixième de leurs 25 meilleurs héros dans les films d'action, et Gladiator respectivement troisième meilleur film de vengeance et septième meilleur film d'action. Enfin, Russell Crowe a été nommé 50e héros du cinéma américain par l'American Film Institute. Cependant, le film a suscité des critiques négatives, telles que celle du renommé critique américain que je ne présente plus, M. Roger Ebert, du Chicago Sun-Times, qui a visiblement pas vraiment aimé. Je cite, « Le film apparaît boueux, flou, indistinct, et les personnages n'ont rien à lui envier. Ils sont amers, vengeurs et dépressifs. Gladiator utilise la morosité comme substitut à la personnalité et suppose que si les personnages sont suffisamment amers et déprimés, nous n'allons pas remarquer combien ils sont ennuyeux. » Roger Ebert, le 5 mai 2000, le jour de l'avant-première. Il n'a pas attendu longtemps pour faire sa chronique. Le jour de la première, Il a écrit sa chronique. En France, le film a reçu des critiques globalement positives. Sur Allociné, il a quand même 4,4 étoiles sur 5. Ça vient des spectateurs. Et 4,3 sur 5 par la presse. Télérama dit « Gladiator fait salade russe ». De l'histoire romaine, à la manière d'un péplum classique, il mélange l'efficacité et rêverie, énergie et mélancolie, Soleil et Nuit. Surtout, Ridley Scott s'intéresse à son gladiateur. Magnifique énigme, invincible et fantomatique. Le magazine Les Inrecuptibles publie quant à lui la critique suivante. Schizophrène, le film doit sa réussite à deux facteurs non négligeables qui font paradoxalement défaut à la plupart des superproductions actuelles, une histoire taillée dans le marbre, malgré des incartades New Age et des interprètes convaincants. Métamorphosé, Russell Crowe apporte une incroyable épaisseur à son personnage. Je cite Olivier Père des Inrecuptibles en 2000. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. Il y a tellement d'autres choses que je pourrais en faire un deuxième épisode. Mais on va s'arrêter là. J'espère que cette chronique vous aura plu. Je m'excuse pour les petits faux pas. Et n'oubliez pas, mettez 5 étoiles, ça ne coûte rien au podcast, s'il vous plaît. Ça me fait remonter en flèche et ça m'aide beaucoup. Même si ça ne vous plaît pas, hein, mettez 5 étoiles. Voilà, merci, supportez-moi sur mes différentes plateformes que vous avez en lien dans la description du podcast. Vous cliquez sur « Read More » ou « Plus » et vous avez les liens à cliquer ou à copier dans votre navigateur. Et vous arrivez sur mes sites et je vous propose des épisodes inédits où je reviens sur des épisodes d'une heure et demie, deux heures, où je reviens en détail sur un film, où j'aborde ses effets spéciaux, la production vraiment en détail, le tournage, toutes les anecdotes de tournage possibles. Enfin bref, si ça vous intéresse, je vous donne ça. Ça, c'est Acast Plus. Vous le trouvez sur toutes les plateformes. Vous avez le lien dans la description. Je vous dis merci, à bientôt et ciao ciao.
Histoire d'en dire plus.
Moins 40.
Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit.
Montez, on m'appelle Mamie.
Et Mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, Mamie Tromblon, hein.
Il connaît pas Raoul, ce mec.
Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure.
Tu m'aides pas là?
Non, pas là, non.